Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous allons lire maintenant la parole de Dieu qui sera la base de la prédication. Nous lisons en Matthieu 27 jusqu'au chapitre 28, verset 15. Nous commençons au verset 50 du chapitre 27 de Matthieu. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, et qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, assurez-vous de lui, comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, après avoir scellé la pierre et posté la garde. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de la perte de persuasion et nous vous tirerons d'embarras, d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Pour la prédication, c'est Timothée, notre pasteur, qui nous l'apporte. Merci, Timothée.
Joyeuse Pâques ! Il est vivant, hein ? Il est vraiment ressuscité. Et ce matin, pour ne pas être trompé par nos réflexions influencées par le monde spirituellement mort, nous prions Dieu d'agir par l'auteur qui a inspiré la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu, en fait, éveille en nous une écoute qui soit telle qu'il la veut, afin que nous soyons quelque part ressuscités pour comprendre ce que lui désire que nous comprenions de sa parole. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Chaque année, depuis 2021, nous mettons des panneaux devant l'église durant les périodes de Pâques pour faire réfléchir. Il y a même quelqu'un qui les a, qui en a mis ici, merci, c'est sympa. Donc c'est ceux qui sont devant, ici. Et ces panneaux sont intitulés « Avis d'enquête ». Ce sont des enquêtes d'un détective nommé le détective de Pâques. Et chaque année, depuis 2024, eh bien, nous abordons un avis d'enquête. Parce qu'en fait, on aime bien enquêter, il est bon de vérifier si ce que la parole de Dieu dit est vrai, je vous encourage à le faire dans tous les domaines, parce que la parole de Dieu est fiable. Donc en 2024, nous avions réfléchi à « Jésus est-il vraiment mort ?» Parce que bon, s'il doit ressusciter, il doit être mort. Donc Jésus était-il vraiment mort ? Et puis nous avions conclu après l'enquête en disant « Oui, Jésus est bien mort. » Et cela a une grande signification pour ceux qui placent leur confiance en lui, parce qu'il est mort pour nous. Hein, c'est un élément important. L'année passée, nous avions réfléchi à la question, les écrits qui nous sont parvenus, sont-ils fiables ? C'est vrai, il y a des écrits, on peut se dire, est-ce qu'ils sont fiables ? C'est quand même essentiel. Eh bien, après enquête, nous avons pu répondre oui. D'ailleurs, ce sont les écrits anciens qui nous sont parvenus les plus fiables que nous possédons au monde. Et c'est d'ailleurs en lien avec la fiabilité de Dieu. Donc ce sont des écrits anciens qui nous sont parvenus, qui sont les plus fiables au monde. Et c'est en lien avec la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un avis d'enquête suivant, avec la question suivante, le corps de Jésus a-t-il été volé ? Le corps de Jésus a-t-il été volé ? Et ce n'est pas une question farfelue, parce que nous la trouvons dans la Bible. Dans ce texte fiable et dans Matthieu 28, que nous avons déjà lu tout à l'heure, eh bien, il en est question. Pendant que les femmes étaient en chemin, si vous reprenez vos Bibles, hein, chapitre 28, vous pouvez l'avoir ouvert devant vos yeux, vérifier ce que je raconte toujours. Hein. Donc là, chapitre 28, verset 11. « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent en ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant « Dites, ces disciples sont venus de nuit pour le dérober pendant que nous dormions. » Voilà, ils sont venus le voler. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'affaire. Les soldats prirent l'argent, ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà une fake news. En fait, une nouvelle manipulée. Le mensonge que les chefs juifs voulaient faire circuler. Les disciples sont venus voler le corps de Jésus. Et ces chefs juifs, en fait, avaient demandé à Pilate de mettre des gardes pour que les disciples ne viennent pas voler le corps. Hein, on l'a lu ensemble avant, dans chapitre 27, les versets 62 à 66, hein, où c'était très clairement dit. Donc le lendemain, après son décès de Jésus, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble devant Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, donc Jésus, a dit quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posé la garde. Voilà la situation. Vous l'avez bien en tête ? Les enfants, vous l'avez bien en tête, la situation ? Allez, en quelques points. Jésus est mort sur la croix. Joseph, qui venait de la ville d'Arimathée, a demandé à Pilate, le gouverneur, s'il pouvait avoir le corps de Jésus. Pilate a ordonné de donner ce corps à Joseph. Joseph d'Arimathée prend le corps de Jésus, le met dans un grand drap de lin blanc, jamais utilisé, et fortement parfumé. Or, pour votre culture générale, ce grand drap dans lequel on ensevelit les morts est nommé le linceul ou le suaire. C'est toujours la même, c'est la même chose de quoi on parle. Ensuite, le corps de Jésus dans ce drap de lin, avec plein de parfums, 30 kilos, hein, entre parenthèses, c'est quand même pas mal, est déposé dans un tombeau neuf taillé dans le rocher que Joseph d'Arimathée avait fait faire. Une grande pierre est roulée devant le tombeau, et selon la demande des Juifs, la pierre est scellée, des gardes sont postés devant le tombeau. Donc ça, si jamais vous avez le petit papier, derrière vous voyez, il y a une image où on voit les soldats et c'est scellé. Mais voilà que le dimanche matin, ça c'est l'autre image, le tombeau est ouvert par un ange avec un grand tremblement de terre, les gardes sont pétrifiés de peur. Et ensuite, des gardes vont raconter ce qui s'est passé aux chefs juifs qui veulent faire croire que le corps de Jésus a été volé. Voilà notre situation d'enquête. C'est la situation dans laquelle on est. Donc on va jouer maintenant au détective. Les chefs juifs veulent faire croire que le tombeau est vide et que le tombeau vide est une mise en scène, un complot des disciples de Jésus qui, selon eux, ont volé le corps et font semblant que Jésus est ressuscité. Voilà la situation. Les chefs juifs veulent faire croire que le tombeau vide est une mise en scène, un complot des disciples de Jésus qui, selon eux, ont volé le corps et font semblant que Jésus est ressuscité. Est-ce que c'est vrai ? C'est ça qu'on doit déterminer ce matin. Donc, en bon détective, on se souvient de toutes les informations, des petits détails qui sont là, et on se pose plein de questions. Plein de questions qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand, etc. Peut-être que vous avez des idées. Quelles questions on pourrait poser ici pour savoir si c'est vrai ou non ? Je vous en donne une ou deux déjà. Est-ce que c'est possible de voler un corps dans un tombeau fermé et scellé ? Oh, je n'ai pas répondu pour l'instant. Le détective ne répond pas d'abord. Il pose des questions et ensuite il va vérifier. C'est important de vérifier. Ou bien, est-ce possible de voler un corps gardé par des soldats entraînés ? Tant qu'on n'a pas fait l'enquête, on ne sait pas. Des personnes apeurées ayant perdu l'espoir voleraient-ils un corps ? Ou encore, ayant volé un corps, pourrait-on en avoir de l'assurance pour dire qu'il est vivant ? Ou encore, si le corps a été volé, pourquoi n'y a-t-il pas de recherche pour le retrouver et le montrer à tous ? Vous avez d'autres questions encore ? Ok, si ça vient, vous pourrez venir tout à l'heure. Mais sinon, j'y réponds direct. Hein. Cherchons donc à répondre à nos questions, qui seront en fait les différentes parties de ce jour. Les questions que je viens de vous poser, je vais y répondre maintenant. On va faire l'enquête ensemble. Donc, voler un corps dans un tombeau fermé et scellé. Alors, observons déjà le tombeau. C'est une petite grotte avec une lourde pierre qui est placée un peu plus haut que l'entrée, hein, sur une rigole pour pouvoir la rouler sans effort pour fermer le tombeau. Ok ? Et là, je vous lis une description, donc en fonction de ce que les archéologues ont réussi à déterminer. Voici ce qu'ils disent. Un sillon en pente descendait vers une entrée basse et on coulait une grosse pierre en forme de disque dans ce sillon pour la caler devant l'ouverture de la tombe. On utilisait une pierre plus petite pour la bloquer. Mais s'il était facile de descendre ce gros disque de pierre le long du sillon, il fallait en revanche plusieurs hommes pour la remonter afin d'ouvrir la tombe. En ce sens, sa sécurité était tout à fait assuré. Fin de citation. Donc, il était donc déjà difficile d'ouvrir le tombeau lorsque la pierre était roulée devant. D'ailleurs, c'est une des questions des femmes lorsqu'elles vont au tombeau, hein, dans Marc, par exemple, elles se disent « Mais qui roulera la pierre à l'entrée du tombeau ?» Donc, pour voler le corps, il faudrait donc avoir assez de force ou assez de personnes pour ouvrir le tombeau sans être vu. Qui est déjà difficile dans cette situation. Donc, il faudrait beaucoup de force à cette personne pour ouvrir le tombeau sans être vu. En plus, il faudrait entrer dans une propriété privée, celle de Joseph d'Arimathée, qui d'ailleurs n'a pas intérêt, face aux autres autorités, à donner le droit d'y pénétrer. Mais ce n'est pas tout. Les chefs juifs ont demandé à ce que le tombeau soit scellé. Alors, sceller un tombeau ou sceller la pierre du tombeau, pourquoi on faisait ça ? En fait, c'était pour dire que c'était interdit de l'ouvrir. C'est toujours encore comme ça actuellement. Quand il y a une situation où il y a eu un événement et que la police doit enquêter, elle met des scellés. Donc, elle met des indicateurs, je ne vais pas vous faire l'explication de comment maintenant, mais qui permettent de dire là, c'est interdit d'entrer. Et celui qui entre dans ce lieu est passible de jugement. Okay. Donc, poser un scellé, c'est dire que c'est interdit d'ouvrir. Si quelqu'un brise le sceau, les autorités vont l'arrêter, le juger. Il devra peut-être payer une amende, aller en prison ou peut-être même, du temps des Romains, être mis à mort. Donc, pour voler le corps, il faut donc désobéir aux autorités civiles pour accomplir quelque chose que Jésus n'a pas demandé. En passant, il est intéressant de noter qu'il n'est dit nulle part qu'un disciple a été arrêté et qu'il a dû rendre compte pour avoir brisé un scellé. Les chefs juifs savaient, avec le témoignage des gardes, que les disciples n'avaient pas brisé le sceau et les autorités romaines n'avaient pas de preuves pour faire un procès. Alors ce premier élément ici nous montre que les disciples n'ont pas volé un corps dans un tombeau lourdement fermé et scellé. Et ils nous permettent de réfléchir à deux choses que ces disciples vivent et que tout disciple est appelé à vivre. Les disciples de Jésus qui suivent ses enseignements basés sur la loi de Dieu respectent la propriété d'autrui. Donc ça, ne pas le faire aurait déjà été un péché. Ensuite, les disciples de Jésus qui suivent ses enseignements respectent l'autorité. Il y a des scellés qui ont été posés, c'est interdit d'y entrer. Et c'est Jésus qui le dit. Vous vous rappelez peut-être lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il n'est pas en train d'écarter l'autorité. Bien sûr, il met une autorité supérieure. Hein. Rappelons-nous que dans tout le Nouveau Testament, qui est l'enseignement de Jésus, il est dit à ses disciples qu'il faut respecter l'autorité. On le voit dans Romains 13. Hein. Respecter l'autorité civile, les scellés posés sur le tombeau n'ont pas à être touchés. Et si vous n'êtes pas sûr que tout le Nouveau Testament, c'est les paroles de Jésus, vous pouvez lire Jean 16, 12 à 14, qui disait que le Saint-Esprit allait rappeler toutes ces paroles à lui, et c'est ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc il n'y a pas ici un commandement de Dieu qui annulerait ce qui est demandé par l'autorité. Rappelons-nous, nous ne sommes jamais motivés à désobéir à l'autorité civile. Jamais. Mais parfois, nous obéissons à une autorité supérieure. qui est notre motivation pour ne pas faire ce que l'autorité civile demande, parce que nous obéissons à une autorité supérieure. Donc ici, voler un corps est déjà en soi un péché, car Dieu nous dit de ne pas voler, 8e commandement. Il n'y a donc aucun ordre supérieur qui ferait que les disciples ne fassent pas ce que les autorités civiles demandent, c'est-à-dire ouvrir le tombeau. Donc les deux choses qu'on vient de voir, les disciples de Jésus sont appelés à respecter la propriété d'autrui, et deuxièmement, les disciples de Jésus sont appelés à obéir aux autorités civiles. C'est ce qu'on voit ici. Donc continuons notre enquête. Les disciples seraient-ils assez forts et malins pour faire face à la garde qui était en place devant le tombeau ? Donc on a déjà dit ouvrir le tombeau et ouvrir le scellé, ça non. Mais bon, continuons avec les gardes si tout à coup ils feraient ça. La garde devant le tombeau de Jésus était formée d'hommes entraînés au combat et à la garde. Ils savaient que s'endormir pendant les heures de garde était puni de mort, selon un commentateur. Cela ne pouvait donc pas leur arriver, et pas à tous en même temps d'ailleurs. Les gardes étaient au courant que les chefs juifs tenaient à ce que le corps reste dans la tombe. D'ailleurs, c'est vers eux qu'ils vont directement annoncer la nouvelle. Ils ne vont pas vers Pilate, ils vont vers les chefs juifs. Donc pour tromper les gardes, il aurait fallu neutraliser les gardes ou tout faire sans éveiller leur attention. Alors, les neutraliser n'est pas une option raisonnable. Ils auraient d'ailleurs même pu demander du renfort. On ne sait pas si c'était 4 ou 12, plus vraisemblablement 12, qui étaient présents là. Donc, pour tromper les gardes, il aurait fallu soit les neutraliser ou tout faire sans éveiller leur attention. Les neutraliser, je crois qu'on peut déjà l'écarter. Et pour voler le corps sans attirer l'attention, il aurait fallu, tenez-vous bien, arriver vers le tombeau sans qu'ils les voient ou les entendent, ce qui devait être assez difficile ou impossible. Il aurait fallu déplacer la grosse pierre devant le tombeau sans un bruit et sans que les mouvements soient perçus par les gardes. C'est impossible. Il aurait fallu prendre le corps rapidement, mais le récit nous indique que ce qui entourait le corps de Jésus était dans le tombeau bien rangé. Il aurait fallu donc prendre des heures pour détacher le drap qui entourait le corps, car la myrrhe, sûrement appliquée sous forme d'huile sur le corps, faisait coller le lin sur le corps. Il leur a donc fallu tout décoller ça, le laver, bien le plier et le mettre là, sans que les gardes le voient, évidemment. C'est impossible. Donc vraiment face à des gardes, impossible d'avoir volé le corps. En fait, c'est comme s'il était possible d'aller chercher un trésor dans une maison où devant la porte, il y a 12 chiens, des Rottweilers, des pitbulls et tout ce que vous voulez, qui sont là prêts à vous sauter dessus. Et donc, vous arrivez à rentrer et à sortir avec le trésor. C'est un peu la même chose face à ces gardes. Mais vous savez quoi ? Jésus, lui, n'a pas appris à ses disciples à se battre physiquement. C'est pas ça qu'il leur a appris. Il ne leur a pas appris à se battre contre des soldats physiquement. D'ailleurs, lorsque Pierre a dégainé son épée, alors qu'ils étaient dans le jardin de Gethsémané, en train de l'arrêter, il lui a dit « Remets ton épée dans son fourreau ». En fait, Jésus a appris à ses disciples à combattre dans la prière. Et il l'a fait tout au long de son ministère, et de manière très intense au jardin de Gethsémané, juste avant d'être arrêté. Paul, guidé par le Saint-Esprit, dira plus tard d'ailleurs « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et cela continue, notre combat est aussi dans la prière. Nous pouvons mettre les autorités face à leurs responsabilités et demander justice. Ça, nous pouvons le faire, ça fait partie de ce qui est juste. Mais jamais faire justice nous-mêmes ou nous venger nous-mêmes. Il n'y a pas à se battre contre des gardes. Si Dieu veut libérer des gardes, il le fera, comme il l'a fait pour Pierre dans Actes 12. Toute l'Église priait et Dieu a délivré Pierre du fond de sa géole. Et d'autres fois, il laissera la mort entraîner des Jacques pour une patrie meilleure. Donc si les disciples n'ont pas pu ni voulu voler le corps face aux gardes, nous pouvons encore réfléchir à leur état d'esprit. Étaient-ils d'humeur à aller voler un corps et créer une histoire inventée ? Ça, c'est la question suivante. Voler un corps étant apeuré, ayant perdu l'espoir. En fait, les disciples avaient abandonné Jésus. Ça, c'est écrit dans Matthieu 26, 56, hein, où il est dit « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Bon, vous allez me dire « Oui, mais bon, il y a Pierre et Jean qui l'ont suivi hein, jusque chez le, lors de son jugement. » Ouais, vous avez vu ce que Pierre a fait ? Lui, l'intrépide, celui qui disait même « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », il l'a trahi. Trahi parce qu'il avait peur. Tous les disciples étaient abattus et terriblement déçus par la mort de Jésus. Tous les disciples étaient abattus et terriblement déçus par la mort de Jésus. Et un commentateur dit ceci, « Suggérer que les disciples ont volé le corps revient à démontrer que l'on ignore totalement dans quel état d'esprit ces hommes se trouvaient à ce moment-là. Ils n'ont pas cru aux nombreuses prédictions de Jésus au sujet de sa résurrection, et maintenant l'a crucifié, ils sont en proie au désespoir et à la peur. » D'ailleurs, quand les femmes sont venues vers les disciples leur dire que le tombeau était vide, il est ressuscité, vous savez ce qui s'est passé vers les disciples ? C'est écrit dans Luc 24. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. Les disciples d'ailleurs qui descendaient à Emmaüs expriment bien ce que pensaient ceux qui avaient suivi Jésus. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais après tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Les disciples avaient espéré, mais maintenant, il est mort. Ils ont peur, ils se cachent et ils sont dans un grand désespoir. Et là, vous pensez que ce groupe de personnes tristes et perdues irait se battre contre des gardes, mettre une énergie folle pour voler un corps et ensuite proclamer que Jésus est vivant ? Mais quel message macabre ! En fait, les Juifs ont plus de foi que les disciples et ils n'ont aucun doute que le tombeau est vide. Ils ne remettent pas l'histoire des soldats en question, c'est une évidence. Pour les chefs religieux, il s'agit de cacher la réalité. Pour les chefs religieux, il s'agit de cacher la réalité. Alors que pour les disciples, il s'agit de leur prouver la réalité. Alors que pour les disciples, il s'agit de prouver la réalité, comme à Thomas qui ne voulait pas croire, sauf s'il voyait Jésus. Remarquez d'ailleurs que Thomas n'a pas demandé à voir le tombeau vide, mais Jésus vivant. Les disciples, en fait, avaient oublié les promesses de Jésus. Ils n'avaient pas encore compris. Ça peut nous arriver aussi d'avoir peur, d'être dans le désespoir comme les disciples l'ont été. Et lorsque nous sommes dans ces situations apeurées en proie à la perte d'espoir, allons vers Jésus. Cherchons à comprendre ce qu'il dit. Il a des paroles de consolation, d'encouragement et de grâce. Vous savez, c'est quand Jésus a parlé à ses disciples qu'ils ont vraiment compris qu'il était ressuscité, qu'il tenait toutes ses promesses, qu'ils sont sortis de la peur et du désespoir. Si vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez-vous dans ce monde où tout va très vite. Prenez le temps de lire un évangile en demandant à Dieu, mais éclaire-moi, permets-moi de comprendre. Et le Christ le fera. Ce n'est pas en mettant Dieu au défi. Je te défie de me toucher. Non, c'est « Seigneur, je suis ouvert à ton œuvre. » Vous vous rendez compte que notre situation ne change pas directement, mais notre façon de voir changera radicalement. Parfois, nos circonstances ne changent pas. Mais c'est comme nos yeux qui s'ouvrent et tout devient différent. Alors, poursuivons notre enquête sur le vol de Jésus. Un avant-dernier élément, voler un corps pour faire croire un mensonge. En fait, il n'y avait que les chefs religieux décrits par Jésus en Jean 8, 44 pour penser qu'on peut donner un témoignage puissant en se basant sur un mensonge connu. Juste, je vous lis comme Jean 8, 44 qu'on puisse comprendre de quoi je parle ici. C'est Jésus qui parle aux chefs religieux. Il leur dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père ». Il était meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. J'aimerais vous lire une citation maintenant et réfléchissez à ce que je dis ici. Le jour de la Pentecôte, la puissance de Dieu descendit sur Pierre si bien qu'en un seul jour, dans un sermon traitant essentiellement sur la vérité de la résurrection de Christ, 3000 âmes furent gagnées pour le Seigneur. Une chose est certaine, Pierre prêcha au moins ce en quoi il croyait, à savoir que Dieu avait ressuscité Christ d'entre les morts. En toute bonne conscience, on ne peut pas prêcher des mensonges avec une telle puissance. Et voici encore un autre avis que je partage. Des hommes meurent pour ce qu'ils croient être vrai, même si c'est faux en réalité. Des hommes meurent parce qu'ils croient être vrai, même si c'est faux en réalité. En revanche, ils ne meurent pas pour ce qu'ils savent être un mensonge. Quel intérêt les disciples auraient-ils eu de propager une nouvelle à laquelle ils ne croyaient pas eux-mêmes, que Jésus était ressuscité alors qu'il cachait son cadavre? Il y aurait eu un grand problème éthique et psychologique. Leur conscience les aurait repris. Ils n'auraient pas pu vivre libres de tout poids sur leur cœur. Faire reposer tout le christianisme sur un mensonge qui serait connu des premiers disciples, c'est penser que le mensonge est vertueux. Et je pense que même le diable ne pense pas cela. Car il est mauvais, méchant et fourbe jusqu'au bout des pensées. Il n'y a rien de bon en lui. Il cherche le mal de tous, même de ses alliés. Il veut le mal, et s'il faut faire passer par des cadeaux, un peu de santé, de la richesse pour arriver à nuire plus, il le fera. D'ailleurs, le mensonge des chefs religieux est risible et absurde. Il se retourne contre eux dès que l'on réfléchit un instant. Si les soldats se sont endormis, comment auraient-ils pu savoir que c'est les disciples de Jésus qui ont pris le corps de Jésus? Franchement, déjà juste ça. Et s'il y avait un réel soupçon que c'était les disciples, pourquoi ne sont-ils pas allés faire des recherches chez les disciples? Car trouver le corps serait la preuve irréfutable que Jésus n'est pas ressuscité. Et un apologète dit ceci, « Montrer le corps mort de Jésus aurait anéanti le christianisme, non pas dans le berceau, mais dans le sein maternel. » Mais les chefs juifs savaient que les disciples n'avaient pas volé le corps, ils le savaient. D'ailleurs, lors des procès des disciples qui ont suivi, il n'est jamais question du vol de corps de Jésus. Regardez, dans tout le livre des Actes, il y a eu des procès contre les disciples. Jamais ils les ont accusés d'avoir volé le corps, jamais. Pourtant, ils ont fait circuler cette fake news, hein. Et un homme que je connais bien a dit ceci, « Quelque insensé que ce soit, que soit un message, il trouve toujours crédit auprès de ceux qui croient les choses parce qu'ils voudraient qu'elles soient ainsi. » Ce mensonge conforme d'autre part ce que Jésus a fait dire à Abraham dans Luc 16, 31, « Même si un mort ressuscite, ceux qui sont décidés à ne pas croire ne seront pas convaincus par sa résurrection. » En fait, vous savez, les enfants ici, les chefs juifs, demandent aux gardes la même chose que lorsque ton copain Max frappe Tom, il le frappe, il lui fait du mal, voilà, et il demande de te dire à tout le monde qu'il est gentil avec Tom, qu'il prend soin de lui. Alors, ce n'est pas vrai, tout le monde le sait, mais il y aura toujours des personnes qui le croiront. Jésus, lui, a dit être la vérité. Vous connaissez Jean 14, 6. C'est un verset à connaître, celui-là. Jean 14, 6, c'est Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a enseigné l'intégrité à ses disciples. Le fondement du christianisme ne peut pas reposer sur un mensonge. Ça contredirait les enseignements de Jésus lui-même. Jésus a enseigné l'intégrité à ses disciples. Le fondement du christianisme ne peut reposer sur un mensonge. Les chrétiens eux-mêmes, d'ailleurs, le dénonceraient et se détourneraient d'un message sans fondement, d'une tromperie organisée. Si nous savions que c'était une tromperie, nous ne serions pas ici. C'est clair. Parce que nous voulons vivre droitement. Nous voulons enquêter. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité et à vérifier ce qui nous est dit en nous basant sur des sources fiables. Moi, je crois qu'on avance dans notre enquête. Hein. Est-ce que le corps de Jésus a été volé? On n'a pas pu voler un corps dans une tombe bien fermée, bien gardée, n'étant pas en état de faire une action si difficile hein, que d'annoncer une nouvelle que l'on appelle bonne en sachant que le corps aurait été caché. ce ne serait pas, c'est pas plausible. Le changement de la peur au courage, du désespoir à une espérance capable de faire face à la mort, n'est pas explicable par une supercherie organisée et connue. Mais alors, pour les chefs juifs, le mieux serait de montrer le corps. Pourquoi ne font-ils pas une recherche pour trouver le corps volé? C'est la dernière chose qu'on m'a enquêté. Le sceau et les gardes étaient là, pas pour que le corps disparaisse, mais plutôt pour garder une preuve que Jésus était mort. En fait, il est facile de prouver la mort de quelqu'un lorsqu'il est possible de montrer son cadavre encore reconnaissable. C'est très facile, en fait, de prouver la mort de quelqu'un lorsqu'il est possible de montrer son cadavre encore reconnaissable. Mais le fait que les chefs juifs ne demandent pas aux gardes de chercher les disciples, les questionner jusqu'à même les torturer et d'absolument trouver le corps de Jésus, est un aveu que le tombeau était vide et que ce n'est pas les disciples qui l'avaient volé. Le fait que les chefs juifs payent des gardes pour répandre un mensonge est un aveu. On ne paye pas pour aller dire la vérité. Le fait que les chefs payent des gardes indique aussi clairement qu'ils demandent de répondre quelque chose qui n'est pas vrai. C'est aussi un aveu qu'ils ont cru ce que les soldats leur ont raconté, mais ne veulent pas que la vérité se sache. Ainsi, ils ne font pas rechercher pour trouver le corps. Ils lancent un canular, une fausse information. Et ils n'ont pas l'intention de dire ensuite « Poisson d'avril ». Non. Comprenez bien que si les chefs juifs pouvaient montrer le corps mort de Jésus, tout ce que les disciples pourraient dire d'une résurrection serait réduit à rien. Mais ils savent qu'ils ne trouveront pas le corps. Ils savent qu'ils ne trouveront pas le corps. Quelle terrible situation pour ces gardes qui ont été forcés de dire un mensonge alors qu'ils étaient témoins d'une des choses les plus extraordinaires. D'ailleurs, pour que nous ayons ces informations dans le texte biblique, au moins un des gardes a dû soulager sa conscience. En fait, il n'y a eu aucune enquête par rapport à la disparition de ce corps. C'est comme si un juge venait chez vous, vous accusait d'avoir volé des milliers de francs, mais sans aucune preuve. Si c'est vrai, alors il devrait trouver des achats, des placements ou toute autre chose qui montre l'arrivée d'argent massive. Mais non, il vous dit simplement que c'est la vérité. Vous avez volé des millions de francs. Vous êtes coupable. Alors, soit le juge est paresseux, soit c'est un filou, ou il est simplement inconscient. En tout cas, il ne fait pas son travail comme il faudrait. Ce dernier point de notre enquête nous pousse aussi, dans notre vie, à ne pas recevoir des accusations ou des informations sans preuve. Et de ne pas en répandre non plus. Assurons-nous que ce que nous disons est la vérité. Cela nous protégera et protégera ceux avec qui nous parlons et ceux de qui nous parlons. Et ça protégera même ceux à qui l'on a parlé qui n'aillent pas en parler ailleurs encore. Jésus a été intègre toute sa vie. Il a transmis à ses disciples cette vertu qu'il veut voir vivre en réponse à son amour pour nous. Vous savez, Satan n'a pas pu empêcher la mort de Jésus. Pourtant, il a tenté Jésus jusqu'au bout. Et en même temps, Satan a cherché à rendre l'amour de Jésus la plus abjecte et la plus horrible possible. Et Satan continue à chercher à nuire à tout ce qui est en lien avec Dieu par ce mensonge du matin de Pâques, en utilisant ses chefs religieux, en qui il a su tirer profit de leur haine et de leur égoïsme, hein, ces péchés qu'il va utiliser pour faire passer ce mensonge. Le mensonge, les disciples ont volé le corps de Jésus et ils font croire que Jésus est ressuscité, alors que ce n'est pas le cas. Dernière citation, on arrive à la conclusion ensuite. Bien que ce mensonge ait eu cours chez les Juifs, cela toutefois n'a pas empêché que la vérité de l'Évangile ne volât librement jusqu'aux extrémités de la terre. Comme toujours, l'Évangile vient au-dessus en dépit de tous les empêchements du monde. Mais en conclusion, il est intéressant de constater qu'il est parlé du tombeau vide dans les évangiles, qui font le récit historique de ce qui s'est passé, Mais nous ne trouvons nulle part dans le témoignage des disciples l'insistance du tombeau vide lorsque les disciples témoignent de la résurrection. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les disciples ne demandent pas aux personnes d'aller voir le tombeau vide, cette pièce à conviction principale pour eux, non ? Ils n'ont pas besoin de cette mise en scène. Pourquoi ? Parce qu'ils témoignent avoir vu Jésus vivant. C'est ça le message. Ce n'est pas le tombeau. Écoutez ce que Pierre dit devant les chefs juifs. Dans Actes 4, il est en jugement en plus. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'a pas dit « les gars, on arrête un petit peu le jugement là, on va tous au tombeau, on va regarder, là, il est vide. » Mais non, il a simplement dit « Dieu a ressuscité Jésus-Christ. » Et ils l'ont vu, hein, ils le disent, ils le témoignent. Ils n'en vont pas chercher le tombeau à Jérusalem ou d'avoir des reliques. Les reliques ne font pas partie de l'enseignement biblique. Non. Alors oui, le corps de Jésus a disparu. C'est vrai, le corps de Jésus a disparu. Ce corps qui était pendu à la croix n'existe plus, mais il n'a pas été volé. Il a été transformé. Il est ressuscité comme ce sera le cas pour notre corps, en fait. Alors oui, le corps de Jésus a disparu, ce corps qui était pendu à la croix n'existe plus, mais il n'a pas été volé. On a fait toute l'enquête, il n'a pas été volé. Il a été transformé et il est ressuscité, comme ce sera le cas pour notre corps. Et voici ce que dit en Corinthiens 15, si vous cherchez un chapitre de la Bible qui parle de la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15. Alors je ne vais pas vous lire tout le chapitre, hein, je vais juste une toute petite partie qui parle de cette transformation. Chapitre 15, verset 35. « Mais quelqu'un dira... Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. C'est déjà vu, quand vous mettez une semence dans la terre, qu'est-ce qui sort de la terre ? Une semence. Or, beaucoup plus tard, il y aura une semence, c'est vrai, dans la plante, mais c'est une plante qui vient. Il continue au verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le deuxième homme, et là c'est Jésus ressuscité, hein, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Vous pouvez retrouver ça donc dans 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Donc si dans le cadre de notre enquête, il était important de comprendre que les disciples n'ont pas volé le corps de Jésus pour eux, parce que c'est ce que les chefs juifs ont répandu, donc ça j'espère que maintenant on a pu répondre à tout cela, le tombeau vide n'est pas ce qui est le plus important pour eux. Ce qui importe, c'est Jésus vivant. Ce qui importe, c'est Jésus vivant. Jésus vivant avec un corps, c'est l'annonce de la résurrection de tous les humains. Les uns pour le jugement éternel, aussi appelé la mort éternelle, ou dit de façon plus compréhensible, en train de mourir éternellement. Parce que quand on dit mort éternelle, on croit que c'est fini pour l'éternité. Non, c'est en fait, c'est comme mourir tout le temps. C'est ça la mort éternelle. Ou la vie éternelle. Donc pourquoi, vers quoi allons-nous, vers quoi vas-tu lorsque ton corps sera ressuscité. Jésus est vivant et il est l'espoir de toutes nos délivrances. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous donne beaucoup d'éléments sur ce qui s'est passé lors de la résurrection. Nous avons aujourd'hui pris un peu de temps pour réfléchir à ce mensonge qui a été répandu par les chefs religieux de l'époque. Et Seigneur, avec tous les éléments que nous avons pu voir ensemble, c'est réellement un mensonge. Ce n'est pas possible que les disciples sont allés voler ce corps. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'en fait, ils ne l'auraient même pas pu, parce que tu es ressuscité, parce que Jésus est vivant, parce qu'il est celui qui a fait que les gardes ont couru en ville à annoncer aux prêtres ce qui s'est passé, qui ont dit aux chefs d'Israël que un ange est venu, il y a eu un tremblement de terre, le tombeau était vide. Les disciples l'ont vu. Et ils ont témoigné de sa résurrection. Ces disciples qui ont beaucoup de peine à le croire, qui ont beaucoup de peine à comprendre que Jésus était vivant, mais qui par ta grâce ont pu saisir que Jésus est ressuscité. Seigneur, tu as donné des preuves et nous en verrons encore par la suite dans d'autres prédications comme on en a déjà vu aussi dans le passé. Jésus ressuscité a même mangé avec ses disciples. Le poisson a disparu. Ce n'était pas un fantôme, c'était une personne vivante. Oui, il avait des facultés particulières que l'on n'a pas maintenant. Il avait un corps qui jamais ne va mourir, comme nous en recevrons tous un. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que ce jour de résurrection, cette année, permette de nous aider à saisir et comprendre qu'un jour, il y aura la résurrection de tout humain. Et que ce corps que nous recevrons ira à deux endroits différents, selon ce que nous aurons vécu ici-bas. Et nous te prions, Seigneur, que ton esprit éclaire nos cœurs et que nous puissions saisir le salut et nous réjouir de la vie en Christ. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.